Interception. Bonjour. Il y a peu de temps, près de Paris, s'est tenue l'assemblée annuelle d'une association peu connue. Peu connue parce qu'elle représente environ 500 personnes en France, frappées par un mal au nom poétique, mais aux conséquences terribles, et ce mal, c'est le LIS. Il s'agit en fait d'un acronyme anglo-saxon pour Locked-in Syndrome, le syndrome de l'enfermement. Le livre d'un journaliste français, lui-même fauché par le LIS, a rendu son handicap un peu moins mystérieux, le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bobby. A priori, le LIS représente l'une des choses les plus terrifiantes qui puissent arriver à un être humain. La paralysie totale du corps, avec le maintien de la conscience et donc de toutes les capacités intellectuelles. En général, le LIS est un piège dont on ne sort pas. Monique Dérien et Jean-Pierre Pernel ont profité de la réunion de cette association pour nous faire découvrir la situation de ces personnes, privées de leur corps mais pas de leur esprit. Particularité de ce reportage, interviennent des personnes qui ne peuvent pas émettre le moindre mot. Pour les entendre, il faut donc passer par le truchement de machines ou d'intermédiaires. Les réponses aux questions posées sont souvent très longues à venir, vous comprendrez vite pourquoi. Sachez donc que pour les nécessités de cette émission, nous avons été obligés de réduire par le montage ce temps d'attente. Locked-in syndrome, la vie dans les yeux, c'est un reportage de Monique Dérien. Interception, le magazine de la rédaction.
Oui, bonjour, c'est Monique Dérien, oui.
Premier étage.
Merci.
Moi, c'est Marceline.
Marceline.
L'auxiliaire des Gilles.
Voilà. Julio est devant son ordinateur.
Exactement.
Je voulais vous rencontrer pour que vous nous expliquiez un petit peu comment vous vivez et comment vous avez envie de vivre. Parce que je sais que vous avez eu beaucoup de courage et que vous avez beaucoup tenu à être autonome le plus possible malgré votre handicap. Alors là, vous avez une tige qui est accrochée sur la tête et c'est avec ça que vous tapez sur le clavier.
Et la tige s'appelle la licorne, qu'on appelle ça.
Donc cette licorne-là, fermez les yeux, oui. Voilà. Non. Avec. La tête.
Quand il dit oui, c'est avec les paupières et c'est... avec la tête, c'est quand il dit non.
D'accord. Donc, quand il baisse la tête, c'est non.
Oui.
Et quand il ferme les paupières une seule
quand
fois,
les paupières,
c'est oui. Bon, je peux m'asseoir.
Giulio est assis, attaché dans le fauteuil où Marceline l'installe chaque matin. Par d'infimes mouvements de la tête, sa seule mobilité, il manœuvre son fauteuil avec une incroyable adresse, il actionne une commande au menton, un joystick placé devant son visage et qui lui permet de diriger ses déplacements.
Ça fait combien de temps que vous vous êtes installé dans cet appartement ? Moins de 2 ans. Alors ça veut dire que pendant 13 ans, vous vous êtes battu pour arriver là ? Oui, ça commence par la réanimation. Ça continue par la rééducation. Voilà, la rééducation où une ergothérapeute vous a appris à faire, c'est ce que vous écrivez là sur l'écran, vous a appris à faire avec le minimum de mobilité. Alors la mobilité en ce qui vous concerne, c'est la tête. Au début, il n'y avait même pas la tête. C'est ça toujours que vous m'expliquez. Donc la rééducation, c'était d'abord pour arriver à bouger un petit peu la tête. Hein, c'est ça. C'est surtout l'ergot qui vous a beaucoup aidé. Je lis toujours sur l'écran. Hein. Malgré mes « laisse-moi tranquille ». Au début, c'était ça. « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Aujourd'hui, c'est encore ça ? C'est plus du tout ça, aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui c'est plutôt les auxiliaires qui le disent, qui vous disent « laisse-moi tranquille ».
Marceline, alors, quand est-ce que vous lui dites « laisse-moi tranquille » ?
Oh non, mais vous savez, il est tellement drôle que... C'est pas tout à fait vrai. Quand on le connaît bien, il suffit de prendre au moins peut-être un mois à peu près. Hein.
Vous êtes combien d'auxiliaires ?
Nous sommes deux et nous nous relayons une semaine sur deux. C'est à printemps, de lundi au lundi, nuit et jour avec lui.
L'autonomie de Giulio, oui. C'est la tête.
C'est la tête, oui. Parce que c'est son moyen de communication. Avec sa tête, il peut s'exprimer correctement quand on l'observe bien.
Par exemple, vous, qu'est-ce que vous comprenez quand il bouge la tête ? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre que moi, je ne vais pas comprendre ?
Mais par exemple, tout à l'heure, on était en train de regarder ce qui manquait dans sa petite pharmacie. Puis il me fait signe de la tête vers l'armoire où il y a le produit. Et je cite ce qu'il y a dedans et il me dit oui par les yeux. Et là, moi, je vais voir ce que c'est. Et puis, il me dit que c'est bien ça.
D'accord.
Et il sait faire la cuisine.
Comment vous faites la cuisine, Giulio ? Pour faire la cuisine, c'est très simple. Écrit Giulio sur l'ordinateur, les auxiliaires sont mes mains, je leur dis quoi faire.
Les légumes, il aime beaucoup les légumes et puis le riz. La viande aussi, il aime bien préparer. C'est-à-dire, en fait, avant de commencer la cuisine, il nous écrit sur l'ordinateur, il nous écrit ce qu'il veut manger. Et après, il vient avec nous dans la cuisine. Il me dit quel ustensile il faut prendre, quelle quantité d'eau, d'huile, tout ça là. En le regardant, je dois suivre exactement ce qu'il dit pour que ça soit bien. Sinon, c'est comme si c'est moi qui le faisais, alors que c'est lui. C'est son autonomie, c'est sa vie. Donc, moi, je l'aide seulement à prendre ce qu'il faut prendre. Il faut faire cuire pendant telle durée. Et puis, il vient surveiller de temps en temps. C'est un travail d'équipe.
Giulio respire sans assistance, sans trachéotomie. Il peut avaler, donc manger la nourriture solide qu'on porte à sa bouche. Mais les liquides qu'il absorbe sont gélifiés pour éviter tout risque d'étouffement, car il contrôle mal sa déglutition, comme la plupart des Loctin syndrome. Marceline lui donne à boire, cuillère après cuillère. Marceline, pour qui la vie de Giulio n'a plus rien de mystérieux.
Moi aussi, au début, quand on voyait les handicapés, je disais, mais comment il fait pour vivre, pour manger, pour marcher, pour... On se pose mille et une questions sans avoir la réponse. Mais quand on vit avec une personne comme ça, on voit finalement qu'ils sont au même pied d'égalité que nous, malgré leur handicap. C'est ce qu'ils me reprochaient souvent. Enfin, souvent, au début, moi, j'avais tendance à dire, ben, vu son état, peut-être qu'il n'est pas capable de faire ci ou de... Mais il m'a fait comprendre que... C'est par ordinateur qu'il m'a fait comprendre que... qu'il ne faut pas me traiter ainsi. Je suis comme toi. Prends-moi tel que toi-même. C'est ce qui nous a permis à nous entendre beaucoup plus tard. C'est vrai que... oui, je te rappelle, quand on partait faire des courses au supermarché, il y a des gens qui vous regardent d'un air interrogatoire pour dire c'est qui celui-là ou bien comment elle fait. Une fois, on était parti au supermarché, j'étais partie, Giulio était en train de... On était dans les rayons de... C'était du côté fromage, je crois. Il me fait signe par la tête qu'il voulait ça. Il y avait une dame derrière qui suivait ce que Giulio expliquait, faisait. Et la dame lui dit, « Excusez-moi, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là ?» J'ai dit, « Oui. Mais comment vous avez fait ? Comment vous faites ?» Après, j'ai dit, mais vous lui parlez, en le regardant, il vous dira, et il vous fera comprendre ce qu'il dit. Et la dame l'a vu. C'est vrai, monsieur, je peux vous dire bonjour, comme si c'était un enfant. Et je lui ai dit, oui, j'ai dit, là, mais il a cligné les yeux. J'ai dit, oui, ça veut dire oui. Ah, elle était émerveillée. Après, chaque fois qu'elle nous voyait, elle nous disait bonjour. Elle venait vers lui pour lui parler, et puis ça se passait. Le contact a été plus facile. Il a un tel courage qu'il partage, son enthousiasme, qui est formidable, parce que c'est pas facile de pleurer avec lui. Il a plus tendance à faire rire qu'à faire pleurer, c'est ça.
Votre bonheur de chaque jour, c'est quoi? C'est vivre tout simplement. Voilà ce que vous venez d'écrire sur l'ordinateur. Mais ça veut dire quoi, vivre? Vivre tout simplement, faire le maximum de choses comme s'il n'y avait pas de handicap. Où je suis bien, c'est sur l'ordinateur, car j'ai alors besoin de personne. C'est là où vous vous sentez le plus libre, sur l'ordinateur, parce que vous n'avez besoin de personne. C'est ça.
Je vois qu'il devait sortir pour accompagner.
Il aime bien faire ça.
Il a raison. Merci Giulio, à ce soir. À ce soir pour le concert.
Frédéric Pellas, je suis médecin à Nîmes, au CHU de Nîmes. Et je suis médecin de rééducation. Je m'occupe plus particulièrement de personnes qui ont eu des traumatismes cérébraux ou des accidents vasculaires cérébraux.
Et vous êtes aussi un membre actif de l'association ALICE, l'association des Loctin Syndrome.
Oui, depuis je crois plus de 10 ans. J'ai commencé à m'intéresser au Loctin Syndrome comme beaucoup après la publication du livre de Jean-Dominique Bobby. J'étais à Marseille à ce moment-là et depuis je continue à collaborer et à suivre l'action de l'ALICE où j'ai une activité un peu plus de conseil scientifique ou médecin ressource, on va dire. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas exactement le Loctin syndrome, en quelques mots, c'est une paralysie quasiment complète de tout le corps, les 4 membres, bras, jambes, des mouvements de la tête, de la parole, donc du visage, de la déglutition, et ne peuvent subsister que de petits mouvements des yeux, en général les mouvements verticaux. Ce sont des personnes qui sont dans cet état, en général après un accident vasculaire cérébral, et ils ont ou elles ont une conservation majeure, importante, des fonctions cognitives ou intellectuelles. Peut-être au tout début, certains ont des troubles, mais assez rapidement, d'après les études qui ont été faites, ou de quelques mois, ces troubles régressent. Donc on se retrouve des gens, d'où le terme, emmurés dans leur corps, locked-in syndrome, ça veut dire enfermés dans leur corps. Et c'est vrai que c'est une image qui peut effrayer. Quand les personnes sont au début de leur maladie en réanimation, avec les moyens maintenant du diagnostic, on peut savoir très tôt ce que va devenir la personne, qu'elle risque de rester dans un état de locked-in syndrome, et souvent c'est annoncé à la famille comme une sanction définitive, et on leur ferait même comprendre parfois que ce serait une vie invivable, et à la limite, s'il y avait une complication médicale aiguë à la phase précoce, ce serait peut-être même mieux de ne pas s'acharner ou se battre. La constante, c'est que soit les personnes ne font pas leur deuil, comme on dit, n'arrivent pas à intégrer leur handicap, et c'est vraiment catastrophique pour eux, pour les proches. C'est des gens qui n'arrivent pas à avancer, qui regardent tout le temps derrière eux, ce qui peut se comprendre, hein, c'est pas une critique. Soit ce sont des personnes qui arrivent à à intégrer, à avaler la couleuvre, à faire leur deuil. Pourquoi ils y arrivent ? Ils y arrivent parce qu'ils se sont donné un projet, un but, quel qu'il soit, qui n'est pas complètement absurde, qui est en adéquation avec leurs possibilités. Parfois, ce but semble totalement déraisonnable aux proches, à l'entourage. Ça peut être un Locked-in syndrome qui écrit un livre, et dont on fait un film qui est mondialement connu. Je ne sais pas s'il avait cette idée-là à l'esprit, Jean-Dominique Mauby, mais je pense qu'il a voulu faire un livre et qu'il était persuadé que le livre, il l'a fait pour que le livre soit vendu, pas pour faire juste œuvre de témoignage. Donc je pense qu'il faut se donner un objectif, un projet, accessible avec les moyens qu'on a, et ensuite faire en sorte que les autres vous aident.
Voilà, merci. Madame, je vous en prie, au revoir. Là, c'était plusieurs listes.
Elles sont pareilles, les listes.
Oui, pour savoir si une personne est venue ou pas.
Voilà. On essaie beaucoup, si vous voulez, de faire en sorte d'oublier son handicap. C'est-à-dire que partout où on va, on lui dit tu viens et tu es comme tout le monde. Hein, Sophie ? Donc c'est vrai que des fois c'est un peu dur, mais on essaie de... On est parti en vacances l'année dernière, pour la première fois.
Ce tableau de lettres, là, ça fait longtemps qu'elle peut s'en servir ?
Un an. Un an que tu arrives à mettre le crayon et...
À mettre le crayon sur le tableau.
Oui.
Comme ça, vous arrivez à vous faire comprendre et à communiquer.
Et c'est pareil, l'ordinateur, maintenant, elle va avec un petit clavier, un tout petit. Je tape... Oui, tu tapes, toute seule, ouais, c'est vrai. Attends, chérie. Je fais, c'est ce que je veux. C'est ça, non ? Ce que je peux.
Mais ça n'a pas l'air triste du tout chez vous, la vie.
Non, mais il faut pas, hein, Sophie ? C-E-C-M-O, c'est mon, O, mon or. Ah, ton orthophoniste qui est là. Oh, alors là, ça, vous savez.
Stéphane Lehidou, vous êtes l'orthophoniste de Sophie.
Oui, je vais à domicile 4 fois par semaine pour la faire travailler. Et puis, on a l'occasion aussi de prendre de bons fous rires.
Ah, il est merveilleux, merveilleux. C'est quelqu'un de super. Sophie adore. Ah, Sophie, H-E... Heureusement que je l'ai. C'est un peu son confident. Il parle beaucoup de la musique, beaucoup. Il se passe des CD.
On échange, oui, sur beaucoup de sujets. C'est en plus une famille très, très joyeuse. Donc, il y a toujours cette volonté de voir les choses de façon très positive. Et ce qui fait que ça donne forcément de l'allant.
Bonsoir. Bonsoir, je suis Véronique Blandin, déléguée générale de l'association Alice. Merci à tous d'être là présents, si nombreux ce soir, c'est formidable d'avoir réussi à remplir cette salle. Vous avez au moins deux bonnes raisons ce soir d'être ici. Tout d'abord, la première, c'est que vous allez passer une très bonne soirée grâce au quartet Bon Swing, Bon Genre, conduit par Franck Bossler. Et la deuxième raison ?
Eh bien, la deuxième raison, c'est votre soutien à Alice. Et on le voit d'ailleurs ce soir, hein, parce que la salle est pleine, encore plus qu'il y a 2 ans, même 2 fois plus.
Julien, ça te va comme ça ? J'en ai pris un pour moi et un pour toi. Tu veux autre chose ?
Non.
Il y en a un pour moi. Tu veux autre chose ? C'est bon ? Tu veux des chips ?
D'accord, merci.
Je m'appelle Jacques Gavard, et je suis le photographe de l'association. Je travaille pour les stylistes Marité François Girbeau, et il se trouve que le frère de Marité est lisse, et ce qui m'a donné l'occasion de découvrir tout le côté admirable qui entoure tous ces gens-là, qui se dévouent. Une fois, j'ai vu un truc incroyable, c'était à la Salpêtrière. Il y avait une dame qui était là, qui était... J'ai pris en photo comme ça. Elle était avec un monsieur, je crois que c'est son mari. Et en fait, c'était son voisin parce que son mari l'avait abandonné. Alors, il faut surtout pas juger parce que c'est super dur, quoi. Enfin, quand quand on voit un jour, deux jours, c'est une chose, mais tous les jours, c'est super, super difficile.
Quatre parties, là, on est quatre. Qu'est-ce que vous voulez ? Tatin, pomme, citron.
Annick, on s'est vu il y a 2 ans, vous étiez avec un ami. Et il continue à venir vous voir à l'hôpital ? Oui ? Oui ? Qu'est-ce qu'il fait quand il vient vous voir ? La lecture, il chante, qu'est-ce qu'il fait ?
Consonne ? Voyelle ? A, E, I, O. O, consonne. Première, deuxième, L, M, N, on. Plus loin ? Plus loin ? Consonne. Première, deuxième, L, M, N, P. Voyelle ? A, on parle ? On parle beaucoup.
Parce que lui, il maîtrise comme vous la technique de l'épeler, c'est comme
oui.
ça que ça s'appelle ?
Oui, tout à fait. On décompose avec les voyelles, donc A, I, O, U, et les consonnes qui sont divisées en 3 parties, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, et R, S, T, V, W, Z, la 3e.
Et Annick n'a pas d'ordinateur ?
Si, elle a un ordinateur, donc elle travaille, enfin, elle est beaucoup sur Internet, Annick, et elle communique avec ses enfants.
Il n'y a pas très longtemps que vous les revoyez, vos enfants ? Vous avez été seule un moment, hein, je crois savoir. Oui ? Combien de temps ?
2 ans, plus que ça.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez été seule 10 ans.
Merci beaucoup.
Et comment est-ce que votre famille est revenue vers vous ?
Alors, consonne. Première, deuxième, L, M, N, P, N. Voyelle. A, E, N, A, consonne. Première, deuxième, troisième, R, S, T, V, T. N, A, T, donc. Je connais de l'histoire. Donc, c'est Nathalie qui a recontacté Annick.
Nathalie ?
Nathalie, la fille d'Annick.
Qui, tout d'un coup, comme ça, a eu envie de revoir sa maman. Et ça change la vie, évidemment. Surtout si on arrive à écrire des mails par ordinateur, c'est...
Elle a des contacts, oui, presque tous les jours. Faut pas dire tous les jours.
Vous êtes en lice depuis combien de temps ? 20 ans ? Merci. Merci beaucoup.
On le conserve à recommencer, non ?
Zoubida a fait le déplacement de Berck à Boulogne, où se déroule cette année le congrès annuel des Loctin Syndrome. Alice, leur association, organise cette rencontre entre les personnes handicapées et leurs familles, les soignants, les médecins, les chercheurs et les techniciens. On échange sur tout ce qui peut améliorer le quotidien d'Alice, réduire ce handicap extrême. Comme Giulio, Sophie, Annick et tous les autres, Zoubida n'en perd pas une miette. Le fauteuil qu'elle pilote, par commande au menton, file de l'un à l'autre sans relâche. Le regard est vif et comme son visage n'est pas complètement paralysé, son sourire est irrésistible. Zoubida est venue avec les 2 ergothérapeutes qui participent à sa rééducation.
Moi, ça fait 2 ans. Et
pareil, ouais, 2 ans aussi. Ça fait 2 ans qu'on est sur Berck, même. Ça fait 2 ans.
Et Zoubida, elle commence à parler, là.
Oui,
on commence à très bien comprendre ce qu'elle dit.
Oui, oui.
Et c'est depuis quand, ça ?
Ah, ça fait, moi, je dirais, depuis 1 an et demi qu'on a des progrès, des gros progrès, tant au niveau physique qu'au niveau de la parole.
Et ça, c'est combien de temps après l'accident ?
Ça date de 2003, ton accident, Zoubida, ouais. Un accident vasculaire cérébral, basé au niveau du tronc cérébral. Donc on a des très bonnes récupérations, encore 5 ans après.
C'est voilà. De l'ergothérapie tous les jours, à quel rythme ?
Oui, tous les jours, Zoubida, elle a une heure par jour. Voilà, tous les jours. Donc, du lundi au vendredi.
Qui se dispatche sur la rééducation, et puis tout ce qui est outils informatiques qu'elle utilise assez aisément avec un clavier virtuel.
Et j'ai l'impression que Zoubida a une force de vie
une
incroyable.
Force de caractère, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a une force de caractère, ça c'est clair.
Est-ce que ça aide ?
Ça y fait beaucoup.
Oui,
c'est sûr. Ça y fait beaucoup. C'est sûr que la force de caractère, elle agit sur sa récupération, ça c'est clair.
Je vais vous demander, avant de vous libérer, de vous présenter, s'il vous plaît.
Donc moi, c'est Marie Pavie, ergothérapeute à l'hôpital maritime de Berck.
Moi, Pauline Dufour, ergothérapeute aussi à l'hôpital maritime de Berck.
Voilà. On va laisser passer Zoubida.
S'il vous plaît, Zoubida a une formation de journaliste et parle très bien quand c'est calme.
Venez. Vous voulez bien me donner votre nom, vous présenter,
oui,
monsieur.
Oui, François Delaborde, je visite à l'hôpital maritime de Berck depuis 8 ans. Et une des premières que j'ai rencontrées, c'est Zoubida, qui m'a fait connaître Alice. Voilà. Ce qui fait plaisir, c'est qu'au début, j'avais beaucoup de mal, parce que pour se comprendre, c'était très pénible. J'ai souvenir d'une fois où Zoubida m'a appelé pollution, et je lui ai dit qu'à Berck, c'était merveilleux. Elle m'a fait la tête, parce qu'elle avait envie de la pollution de Paris. Et après, l'autre chose, ce qui fait plaisir, c'est que maintenant, quand Zoubida est au calme, elle parle très bien. Et je suis persuadé qu'elle arrivera à vous parler dans le micro.
Un peu ?
Oui.
La chose la plus importante pour vous, c'est cette possibilité de parler ?
Ah oui, oui.
Ça vous donne énormément de courage pour la suite ? Beaucoup. On a entendu vos ergothérapeutes tout à l'heure nous dire que vous continuez à progresser.
Ah oui, mal.
Dommage.
Je marche dans l'eau.
Oui, et alors, le grand plaisir de Zoubida, c'est la balnéo, qu'elle voudrait avoir plus, parce qu'une fois en balnéo, c'est un décontractant extraordinaire, et dans l'eau, Zoubida marche. Voilà. Et ça, ça a été vraiment extraordinaire. Et là, si elle était un peu plus calme, elle vous chanterait quelque chose, parce que Zoubida, tous les matins, s'entraîne. Ave
Maya. Ave Maya.
Voilà.
Vous allez la voir une fois par semaine ?
En général, oui, c'est ça, voilà.
Mais vous ne pouvez plus vous passer d'elle, en fait.
C'est assez vrai. Avec elle, il y a aussi tout un accueil des autres malades que Zoubida fait. Avec Alice, quand quelqu'un arrive, on me prévient. Et quand Zoubida le fait, elle a à cœur d'aller chercher un bouquet de fleurs en ville et d'accueillir les autres. Et petit à petit, c'est, je crois, très important, tout ce réseau qui est en train de se faire, non pas entre gens de l'extérieur à l'hôpital, mais entre gens hospitalisés. Et là, je crois qu'elle y est pour beaucoup.
Oh non.
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 Ne.
On ne voit pas. On ne voit.
Bien, bien.
On ne voit pas bien, bien.
On ne voit jamais
qu'avec
le cœur.
Cœur. On ne voit qu'avec le cœur. C'est bien comme ça que ça se passe.
C'est ça. Mais enfin, pour l'instant, le rêve de Zoubida, mais pas d'être là, c'est d'aller faire un tour dans les magasins. Parce qu'à Berck, ça manque quand même.
Donc vous allez aller faire un peu de shopping à Paris, Zoubida ?
Ouais. C'est enfin, il ne faut pas le dire, parce qu'après, ça peut être gênant à l'hôpital de dire qu'on est venu pour faire une petite java dehors.
Zoubida, vous aviez une formation de journaliste ? Oui. Et c'est ça qui vous donne cette envie de communiquer, d'échanger ?
Oui.
Zoubida aussi a eu le courage, et ça l'a aidé à se remettre en selle, d'écrire un bouquin de plus de 80 pages qu'on a mis sur le site d'Alice où elle relaye tout ça. Et ce bouquin, en plus, me rend grand service parce que quand il y a des personnes touchées qui arrivent à Berck, eh ben je leur imprime et c'est, je crois, une grande aide. Et je parle tout plein là pour vous ce matin. Il y a eu quelque chose d'important, je crois, pour Zoubida, ça a été d'avoir l'impression de réexister. Voilà.
À quel moment ?
Eh bien, je crois que ça a été un gros point aussi pour vous de pouvoir faire des articles que Alice met sur son site. Et c'est un assez gros travail parce que pour l'instant, Zoubida a accès à l'ordinateur. Mais elle le fait avec sa figure et un trackball ou un trackball qu'elle a devant. Et c'est assez long pour écrire, mais elle y arrive.
Un trackball, c'est une boule?
Le trackball, c'est la souris avec la boule, si vous voulez. Alors pour Zoubida, elle en a un qu'elle a mis devant sa figure. Et donc, avec sa figure, elle bouge la boule. Et pour cliquer, elle, avec les joues sur chaque côté. C'est ça? Avec
le manteau. Avec le manteau.
Voilà. Et là, c'est, je crois, quelque chose aussi où il y aurait des gros progrès à faire encore pour plus mettre à disposition des ordinateurs adaptés et dans des bonnes conditions.
Bonjour, je suis une personne handicapée. Je ne peux pas parler.
En besoin de communication, les personnes atteintes d'un Loguidine syndrome ont ceci de particulier, c'est qu'elles n'ont que très difficilement accès à un traitement de texte ou à des choses comme ça pour faire parler une synthèse vocale. Et qu'en plus donc des difficultés de non-parole de ces personnes-là, il faut leur donner des moyens d'accès qui sont très souvent l'accès à un ordinateur par un contact unique. Un seul contact qui généralement est déclenché par un seul mouvement qui reste très souvent en Loguidine syndrome, ça serait le clignement de paupières par exemple. Et donc avec un conducteur adapté, on peut faire déclencher une lecture de texte composée par le malade, par le patient, et qui va donc, cette synthèse vocale va lire le texte que le patient aura écrit.
On peut avoir une petite démonstration ?
On va faire un petit essai, vous allez voir ce que ça donne. Voilà.
Bonjour. Je suis une personne handicapée. Je ne peux pas parler. La voix que vous entendez est une voix de synthèse. Je vous parle grâce à un ordinateur avec synthèse vocale. Soyez patient, je mets longtemps avant de pouvoir vous répondre. Je vous écoute.
Donc ces différentes séquences vocales, elles sont déclenchées par un battement de paupières ?
Oui. Elles peuvent être déclenchées par un battement de paupières ou tout autre contact de mouvement volontaire qu'on peut récupérer. Les ergothérapeutes savent très bien faire ça. Il y a des contacteurs extrêmement sensibles qui fonctionnent avec une petite contraction de n'importe quel muscle. Et donc, par exemple, une contraction de paupières suffit, oui.
Donc là, on a entendu des phrases types. Oui. Et puis après, il y a la réponse de la personne handicapée. Ça se passe comment ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Là, on est dans une entame de conversation téléphonique. Donc derrière, il peut y avoir aussi des traitements de texte adaptés avec des morceaux de phrases toutes faites ou simplement des lettres qui vont être accessibles, toujours avec le même contact unique. Et donc la personne va pouvoir composer, écrire en fait à l'ordinateur une réponse qui va être adaptée à ce qu'elle aura entendu. Ça doit faire partie de l'équipement standard d'une personne qui ne peut pas parler, c'est évident. Ça devrait même pas être vendu, ça devrait être fourni quasiment gratuitement.
Et vous vous appelez comment ?
Bernard Béville.
Donc Joël Pansard, je suis ergothérapeute et je suis responsable du service des aides électroniques au sein de la société Protéor, qui est une société qui travaille dans le domaine du handicap depuis 97 ans. Alors c'est vrai que le locking syndrome, c'est un niveau de handicap extrêmement sévère. Hein. Donc là, la technologie apporte beaucoup, ou en tout cas peut apporter beaucoup, parce qu'on a affaire à des personnes qui, au niveau capacité motrice, ont très très peu de capacité. Elles peuvent bouger les yeux, peuvent bouger un peu la tête parfois un petit peu le menton, un peu un doigt, enfin les mouvements sont extrêmement faibles. Et donc là, la technologie peut compenser cette perte de motricité en donnant l'accès à l'informatique grâce à des tout petits mouvements. On a des capteurs qui fonctionnent au mouvement des yeux, on a des capteurs qui fonctionnent même au mouvement de la langue, des capteurs qui fonctionnent au mouvement de la tête, on peut piloter une souris par la tête, une souris par les yeux, etc. Donc la technologie apporte beaucoup, et il y a des voies de recherche actuellement très intéressantes qui permettent de capter encore des mouvements encore plus faibles, voire des ondes cérébrales, pour pouvoir ensuite faire fonctionner un ordinateur rien que à la pensée, c'est un grand mot, mais grâce à certaines ondes cérébrales.
En leur apportant un tout petit peu, un infime moyen de communication, vous donnez énormément à ces personnes.
Je me souviens toujours d'une anecdote où on s'occupait d'une personne tétraplégique, donc à la suite d'un accident de la route, hein, qui n'était pas le King syndrome, qui n'avait pas de difficulté de communication, mais qui était paralysée. Elle avait été interviewée par un journal télévisé, et le journaliste lui avait posé la question de savoir qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans votre paralysie. Et la personne a répondu, ça a été mon passage à l'hôpital quand je ne pouvais pas parler. Plus encore que sa paralysie, c'est le fait de n'avoir pas pu temporairement dans son cas parler, qui avait été le plus dur. Les personnes au King Syndrome, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus parler. Donc une technologie qui va leur permettre d'accéder à l'écriture, à un appareil de synthèse vocale qui va parler à leur place, à l'informatique, c'est quelque chose qui est énorme, énorme, énorme. Alors bien sûr, la paralysie reste, mais le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir accéder à Internet, c'est énorme. Psychologiquement, le fait de ne pas pouvoir parler, c'est un handicap majeur. Et le fait de régler, même partiellement, parfois, ce problème-là, modifie énormément la vision que la personne a de sa vie ensuite, quoi. Sinon, elle n'a plus de vision. Ne pas communiquer, c'est ne pas vivre, quoi. Et donc, les personnes qui sont atteintes de Locking Syndrome passent par une période où elles ne peuvent plus communiquer du tout, du tout, du tout. Et le handicap moteur associé fait qu'elles ne peuvent même plus parfois faire des signes simples pour dire oui, non, j'ai mal, j'ai soif, j'ai faim, enfin bon, tout ce qu'on dit, nous, sans faire attention.
Ce silence obligé que vient d'évoquer Joël Pansart est une pathologie encore mal connue du corps médical. À l'Université de Liège, des chercheurs ont donc voulu s'intéresser à la prise en charge d'Élise avec Marie-Aurélie Bruno.
On a remarqué qu'il y avait énormément d'erreurs diagnostiques, donc des patients qui étaient locked in, et donc des patients qui sont totalement conscients mais qui sont incapables d'exprimer leur conscience vont être considérés comme étant des patients végétatifs. Ça veut dire que dans plus ou moins 40% des cas, c'est soit un orthophoniste, soit parfois une infirmière, parfois la famille qui se dit « Tiens, quand je lui demande de faire quelque chose avec les yeux, il le fait, ou je sens qu'il est conscient. » Et donc on voit qu'il y a quand même 40% des fois où le médecin, il passe à côté du diagnostic. On se focalise vraiment là-dessus, sur vraiment le diagnostic, on essaie d'énoncer les critères diagnostic, comment reconnaître un patient locked-in, qu'est-ce qui peut alerter. Donc principalement, ce sont les réponses à la commande, les mouvements oculaires, il faut être très vigilant par rapport à tout ça.
C'est votre priorité parce que c'est extrêmement important pour la suite.
Bien sûr. La prise en charge d'un patient locked-in n'est pas du tout similaire à une prise en charge d'un patient présentant un état de conscience altéré. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne la qualité de vie du patient, donc être considéré comme inconscient. Donc ce que les infirmières peuvent dire autour de soi, ce que les médecins peuvent dire, et donc tout ça, ça joue quand même en plus. Donc on est là, on est conscient, on entend, on voit, mais on ne sait pas l'exprimer, et tous ces gens qui font comme si on n'était pas là. Et donc ça, c'est vrai qu'au niveau, en tout cas, prise en charge médicale d'une part, et ensuite prise en charge, je vais dire, plus qualité de vie, plus sociale, émotionnelle, ça joue quand même un rôle primordial.
Et vous avez aussi essayé de sonder les âmes de ces personnes qui ont justement tellement de mal à communiquer. Et les résultats de vos recherches sont assez étonnants.
Alors oui, on a mené une enquête sur la qualité de vie des patients atteints de Locked-in syndrome. Le nombre d'études qui concernent la qualité de vie chez ces patients, il est très réduit. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des troubles de la communication, ou en tout cas la communication est très difficile avec ces patients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un questionnaire. On va demander à la personne locked-in ou à toute autre personne de s'imaginer quel était le plus mauvais moment de sa vie. Et donc ça peut être un décès, ça peut être la perte d'une personne chère. Et donc sur cette échelle, ce moment va valoir moins 5. Ensuite, on va demander de s'imaginer le meilleur moment de leur vie. Donc c'est l'obtention d'un diplôme, une naissance, un mariage, une rencontre. Et sur cette échelle, ce moment va valoir plus 5. Et donc entre moins 5 et plus 5, on a défini pour chaque patient, pour chaque personne, sa propre échelle de qualité de vie. Donc entre moins 5 et plus 5, il score 1. Ce qui est très surprenant, c'est que cette qualité de vie chez un nombre très impressionnant de patients sains, de personnes comme vous et moi, qui n'ont pas de troubles physiques, moteurs, etc., on voit qu'ils vont scorer plus ou moins 2. Et donc nos études statistiques et scientifiques mettent en évidence qu'il n'y a pas de différence significative entre la qualité de vie des patients locked-in et notre propre qualité de vie. On a vu que les relations sociales étaient très importantes dans la qualité de vie des patients, bien sûr. Tous les patients locked-in n'ont pas une bonne qualité de vie. Je peux vous dire que j'ai eu des patients qui ont scoré moins 5. Puis il y a tous les autres qui, eux, retrouvent une vie qui est spontanée, qui est dotée de sens et qui vaut la peine d'être vécue. Donc on a aussi posé toute une série de questions à des médecins, des paramédicaux et des personnes tout venant. Et on se demande, tiens, si vous étiez locked-in, quelle prise en charge souhaiteriez-vous ? Et donc ils disent, dans 60% des cas, ils veulent l'euthanasie. Or, quand on demande aux patients locked-in, est-ce que vous voulez une euthanasie ? On voit qu'il y a seulement 5% des patients qui veulent une euthanasie. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est pas dire à tout prix les patients locked-in sont heureux. C'est pas ça qu'on essaye de dire. Ce qu'on veut dire, c'est que tous ne veulent pas mourir, que certains retrouvent une qualité de vie qui est acceptable, je veux dire même plus, qui est similaire à la nôtre et qui est donc n'est pas du tout à plaindre ou à... Donc c'est ce qu'on veut, le message qu'on veut essayer de faire passer.
Ça veut dire qu'il faudrait regarder les loctines et les autres handicapés lourds sans être terrifié.
C'est une première chose, sans être terrifié d'une part et sans l'avoir d'a priori.
Julio, qu'est-ce que vous faisiez avant de tomber en loctine ? Vous étiez maçon, c'est ça ? Et l'accident est arrivé comment ? D'un coup, je prenais mon café. C'est quand vous avez pris... Vous étiez en train de prendre le café quand vous vous êtes retrouvé complètement paralysé. Comment ça s'est passé? Les muscles ont commencé à se raidir et tout de suite après le coma. Les personnes qui ne connaissent pas le handicap, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Vous êtes en verve là. Alors, ce que vous avez envie de dire aux autres, c'est pas contagieux, on vit malgré tout, on se surprend soi-même à s'accrocher à ce semblant de vie, comme diraient certains, mais ce n'est pas un semblant, c'est une vie. Merci Giulio, merci beaucoup.
Loctine syndrome, la vie dans les yeux, c'était un reportage de Monique Derrien, prise de son Jean-Pierre Pernel. Audrey Ripouille et Fanny Beauvon ont réalisé cette émission, assistée d'Aude-Émilie Judaïque, mixage Valérie Lavalard.